Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Quart d'heure de santé produite par le docteur Guillaume.
Bonjour.
Alors docteur, le trop grand nombre d'accidentés sur les routes, ça justifie évidemment des mesures répressives, mais il existe quand même une mesure éducative possible.
Les mesures éducatives sont complémentaires des mesures répressives. Mais c'est ce dont je m'intéresse, ce sont les mesures préventives. Je vais vous parler aujourd'hui du parcours de simulation d'éthylémie. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors déjà, dites-nous ce que c'est que l'éthylémie.
Alors l'éthylémie, c'est l'alcoolémie. D'accord. C'est-à-dire la consommation d'alcool qui passe dans le sang et qui perturbe les fonctions supérieures encéphaliques.
D'accord.
Le parcours de simulation d'éthylémie, c'est un petit parcours à pied de quelques mètres que propose une équipe d'éducation routière en entreprise, en milieu scolaire et dans les manifestations pour le grand public.
Oui, alors comment est-ce qu'on peut nommer autrement ce parcours?
Alors, simulation d'éthylémie, c'est très savant. C'est pour ça qu'on peut utiliser d'autres dénominations qui ont des sens identiques. C'est un parcours en état de pseudo-ébriété, c'est une piste alcool. Tout ceci, ce sont des raccourcis abusifs, car il n'y a bien sûr jamais d'ingestion alcoolique au candidat au parcours. Ce qui justifie cependant les dénominations de simulation de pseudo-ébriété, c'est le comportement qui est induit.
C'est ça. Donc il faut un matériel spécial pour faire ce parcours.
Absolument. C'est le matériel optique qui est spécifique à ce test et réservé à ce seul usage. Il s'agit d'une lunette qui est portable en surlunette. L'optique doit être posée avant le départ du parcours et portée sans discontinuité jusqu'à sa fin.
Et pour la piste alors?
Le matériel de piste est très simple. Il s'agit d'un tapis de parcours avec des cônes, une petite poupée qui est par terre, une balle de tennis, un cadenas suffisent et les directives à la voie sont indispensables et plus conviviales.
Alors quels sont les principes du fonctionnement?
Eh bien, le matériel optique est un artifice. Il perturbe la vie et exclusivement la vue, ce qui perturbe les reconnaissances de l'environnement par notre cerveau, ce qui perturbe par voie de conséquence les comportements en rapport avec le monde extérieur. Bref, ce sont des comportements volontairement perturbés et qui sont facilement observables. Les lunettes déforment volontairement les images, elles brouillent la netteté des images, elles atténuent la luminosité, elles provoquent des images floues, ça provoque aussi une vision double, des désaxations verticales et horizontales. Ça déforme les angles, ça provoque la perte de distance et des profondeurs et des reliefs. Bref, c'est complètement déstabilisant.
Oui, mais en fait, c'est pour nous montrer ce qui peut arriver sur la route.
Effectivement, oui. Le but recherché, ce sont les conséquences comportementales qui sont observables.
Voilà.
Elles sont provoquées par la perturbation artificielle et temporaire de la fonction visuelle qui perturbe et qui détériore le fonctionnement intellectuel transitoirement et de manière entièrement réversible.
Oui, une fois qu'on a retiré les lunettes, on retrouve tout.
Absolument. Il n'y a pas de séquelles. La détérioration évoque très approximativement une intoxication éthylique ou cannabique ou d'autres produits à effet psychotrope. La reconnaissance de l'environnement après leur distorsion, l'identification des objets, la décision d'action conséquence d'un déficit dû aux effets actifs sur les fonctions cérébrales, tout cela est approximatif et extrêmement ralenti. Cet état est incompatible avec un parcours à pied et incompatible, bien sûr, avec la conduite automobile. L'incoordination posturale et gestuelle, l'instabilité, le déséquilibre au repos, la marche existante, les pas irréguliers, la marche pieds écartés, c'est ce qu'on appelle le polygone de sustentation qui est élargi, les membres supérieurs décollés du corps, sans balancement, la lenteur d'exécution gestuelle, l'imprécision du geste, les fautes de parcours, tous ces comportements anormaux que nous provoquons sont les conséquences des informations visuelles volontairement perturbées. C'est assez spectaculaire que de voir le candidat qui fait le parcours.
Oui.
Il n'y a cependant aucune corrélation avec un taux d'alcoolémie ou d'intoxication. On ne peut pas dire une évaluation de 0,50 g d'alcool, soit de 0,50 à 1,50. On ne peut pas dire non plus qu'il s'agit d'une évaluation de l'intoxication cannabique. Bref, toutes ces évaluations où on donne des chiffres sont toutes immotivées, car les comportements sont très variables selon chaque individu et sans corrélation avec un produit.
Mais nous allons faire une pause musicale. Bon, alors docteur, si on fait une analyse finalement de tout ça.
Alors, ce qu'on appelle en médecine, c'est l'analyse physiopathologique, c'est-à-dire la manière dont ça marche et dont ça marche mal. Physio et pathologique, ça marche mal. Donc, cette analyse physiopathologique que je vous propose d'écouter est quand même très approximative. Évidemment, la vue est le seul récepteur perceptif que nous perturbons par ce système. La perturbation provoquée, c'est la représentation intellectuelle de l'image. Les systèmes vestibulaires et labyrinthiques, c'est-à-dire ce sont les systèmes de l'équilibre qui sont situés dans l'oreille interne. Eh bien, ces systèmes de la stabilité et de la coordination ne sont pas directement concernés par une atteinte toxique directe. La fonction de coordination est d'origine cérébrale, c'est une reconnaissance, une compréhension du monde extérieur qui, dans le cas, n'est pas anatomiquement atteinte, mais elle est fonctionnellement perturbée. Cet état transitoire ne laisse aucune séquelle. C'est le comportement qui est perturbé, qui est ressenti dans son corps par l'individu testé, qui est visible par l'observateur et les spectateurs. Ainsi donc, pour le volontaire à ce test, c'est une expérience extraordinaire.
Alors n'importe qui ne peut pas conduire ce test alors ?
La conduite du test nécessite l'intervention du réalisateur pour communiquer les consignes. On dit « marchez en pas alternés ou en pas glissés. Suivez la piste sans la déborder. Ne renversez pas les cônes. Prenez la balle de tennis au sommet du cône et gardez-la dans la main. Posez la balle de tennis sur le sommet du cône suivant. Ramassez la poupée, posez à terre et donnez-la-moi. Ensuite, arrêtez-vous au stop. Repartez sur le parcours, retirez la clé du cadenas et remettez-le dans le trou de l'intérieur, si vous arrivez. Ne retirez surtout pas les lunettes et serrez-moi la main. Retirez vos lunettes. D'autres actions existent, avec un ballon notamment, mais 2 ou 3 tests suffisent. Et quant au commentaire terminal, il est convivial. Je dis, bravo, vous avez été mauvais, mais ça aurait pu être pire. Et puis, c'est normal, tout est piégé pour vous conduire à la faute. Et l'hilarité des spectateurs marque encore les esprits.
Alors, est-ce qu'il est bien supporté, ce test ?
Alors, la tolérance est parfaite, habituellement parfaite. Quelques personnes se plaignent de vertiges et de mal de tête en cours de parcours, ou bien après la fin du parcours. Mais c'est exceptionnel, c'est fugace et c'est sans séquelles. Il n'y a donc aucune contre-indication à la passation du test.
Alors, quels en sont les avantages ?
Alors, les avantages du test sont multiples. Le candidat n'a pas l'obligation de savoir lire.
Ah,
il
oui.
peut ne pas savoir écrire, ni compter, ni comprendre la langue même. Le test comporte une observation comportementale de l'observation visuelle, exclusivement sans contact physique. Ce n'est pas un examen médical. Quant à la répétition du test dans la même session de prévention, elle n'est pas souhaitable, car il y a un apprentissage oui. rapide qui améliore le comportement en piste dès la deuxième fois.
Voilà, donc en conclusion.
Alors en conclusion, ce n'est pas un test utilisable dans une démarche diagnostique. C'est un outil pédagogique de démonstration des effets des abus addictifs, c'est-à-dire des abus de drogue et d'alcool, des abus aigus et destinés à tous les publics. Le but recherché est de provoquer la prise de conscience du handicap comportemental que provoquerait une alcoolisation aiguë ou une imprégnation par une substance psychotroque, le cannabis notamment. Ainsi donc, c'est une expérience éducative, non verbalisée, ressentie dans le corps du testé, et elle est accessible à tous. L'ignorance est un péché parfois mortel, c'est pourquoi je cherche à y remédier. L'émission Le quart d'heure de santé est diffusée le mardi à 18h45,
le jeudi
à 11h15 et le samedi à 15h voilà. sur Radio Grand Ciel, bien sûr. Mais vous pouvez aussi l'écouter à tout moment sur le site www.radiograndciel.fr. Amis fidèles, à bientôt.
That lonely day, folks, when I walked all by myself, my friends was all around me, but it was as if they'd left. I went up on the mountain in a high, cold wind. was wearing was mosquito netting thin. I went down in the valley and I crossed an icy stream. And now the water I was crossing was no water in a dream. And the shoes I was wearing, no protection for that stream. Then I stood out on a prairie, and as far as I could see, was nobody on that prairie looked like me. It was a lonely day, folks, when I walked all by myself. My friends was right there with me, but was just as if they left.